Jacques le Fataliste, partie 8. Tu allas à la ville.
Je n'allais point à la ville.
Et il était écrit là-haut que tu rencontrerais dans une taverne quelqu'une de ces créatures obligeantes, que tu t'enivrerais.
J'étais à jeun, et ce qui était écrit là-haut, c'est qu'à l'heure qu'il est, vous vous épuiseriez en fausses conjectures, et que vous gagneriez un défaut dont vous m'avez corrigé, la fureur de deviner.
Et toujours de travers.
Tel que vous me voyez, monsieur, j'ai été une fois baptisé.
Si tu te proposes d'entamer la perte de ton pucelage au sortir des fonts baptismaux, nous n'y serons pas de sitôt.
J'ai donc un parrain et une marraine.
Maître Bigre, le plus fameux charron du village, avait un fils.
Bigre le père fut mon parrain, et Bigre le fils était mon ami.
À l'âge de 18 à 19 ans, nous nous amourachâmes tous les deux à la fois d'une petite couturière appelée Justine. Elle ne passait pas pour autrement cruelle, mais elle jugea à propos de se signaler par un premier dédain, et son choix tomba sur moi.
Voilà une de ces bizarreries des femmes auxquelles on ne comprend rien.
Tout le logement du charron Maître Bigre, mon parrain, consistait en une boutique et une soupente. Son lit était au fond de la boutique. Bigre le fils, mon ami, couchait sur la soupente à laquelle on grimpait par une petite échelle placée à peu près à égale distance du lit de son père et de la porte de la boutique. Lorsque Bigre, mon parrain, était bien endormi, Bigre, mon ami, ouvrait doucement la porte et Justine montait à la soupente par une petite échelle. Le lendemain, dès la pointe du jour, avant que Bigre le père fût éveillé, Bigre le fils descendait de la soupente, rouvrait la porte, et Justine s'évadait comme elle était entrée.
Pour aller ensuite visiter quelque soupente, la sienne ou une autre.
Pourquoi ? Non ! Le commerce de Bigre de Justine était assez doux, mais il fallait qu'il fût troublé.
Cela était écrit là-haut.
Il le fut donc.
Par le père ?
Non.
Par la mère ?
Non, elle était morte.
Par un rival ?
Eh non, 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 de par tous les diables, non. Mon maître, il est écrit là-haut que vous en avez pour le reste de vos jours. Tant que vous vivrez, vous devinerez, je vous le répète, et vous devinerez de travers.
Un matin, que mon ami Bigre, plus fatigué qu'à l'ordinaire, ou du travail de la veille, ou du plaisir de la nuit, reposait doucement entre les bras de Justine, voilà une voix formidable qui se fait entendre au pied du petit escalier.
« Bigre ! Bigre, maudit paresseux ! L'Angélus est sonné, il est près de 5h30 et te voilà encore dans ta soupente ? As-tu résolu d'y rester jusqu'à midi ? Faut-il que j'y monte et que je t'en fasse descendre plus vite que tu ne voudrais ? Bigre ! Bigre !
Mon père ?
Et cet essieu après lequel ce vieux bourru de fermier attend, veux-tu qu'il revienne encore ici, recommencer son tapage ?
Son essieu est prêt, et avant qu'il soit un quart d'heure, il l'aura.
Je vous laisse à juger des transes de Justine et de mon ami Bigre le fils.
Je suis sûre que Justine se promit bien de ne plus se retrouver sur la soupente, et qu'elle y était le soir même.
Mais comment sortira-t-elle ce matin ?
Si vous vous mettez en devoir de le deviner, je me tais.
Cependant, Bigre le fils s'était précipité du lit, jambes nues, sa culotte à la main et sa veste sur son bras. Tandis qu'il s'habille, Bigre le père grommelle entre ses dents.
Depuis qu'il s'est entêté de cette petite coureuse, tout va de travers. Cela finira. Cela ne saurait durer. Cela commence à me lasser.
Encore, si c'était une fille qui en valut la peine.
Mais une créature ! Dieu sait quelle créature !
Ah ! Si la pauvre défunte qui avait de l'honneur jusqu'au bout des ongles voyait cela, il y a longtemps qu'elle eût bâtonné l'un et arraché les yeux de l'autre au sortir de la grand-messe sous le porche, devant tout le monde, car rien ne l'arrêtait. Mais si j'étais trop bon jusqu'à présent et qu'il s'imagine que je continuerai, il se trompe !
Et ses propos ? Justine les entendait de la soupente ?
Je n'en doute pas. Cependant, Bigre le fils s'en était allé chez le fermier avec son essieu sur l'épaule, et Bigre le père s'était mis à l'ouvrage.
Après quelques coups de doloir, son nez lui demande une prise de tabac. Il cherche sa tabatière dans ses poches, au chevet de son lit. Il ne la trouve point. « C'est ce coquin, dit-il, qui s'en est saisi comme de coutume. Voyons s'il ne l'aurait pas laissé là-haut. » Et le voilà qui monte à la soupente. Un moment après, il s'aperçoit que sa pipe et son couteau lui manquent, et il remonte à la soupente. Et Justine, elle avait ramassé ses vêtements à la hâte et s'était glissée sous le lit où elle était étendue à plat ventre, plus morte que vive. « Et ton ami Bigre le fils ?» S'en est sûr rendu, mis en place et payé, il était accouru chez moi et m'avait exposé le terrible embarras où il se trouvait. Après m'en être un peu amusé, « Écoute, lui dis-je, Bigre, va te promener par le village, où tu voudras, je te tirerai d'affaire. Je ne te demande qu'une chose, c'est de m'en laisser le temps. » « Vous souriez, monsieur, qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien. » Mon ami Bigre sort, je m'habille, car je n'étais pas encore levé. Je vais chez son père, qui ne m'eut pas plus tôt aperçu, que poussant un cri de surprise et de joie, il me dit « Hé, filleul, te voilà ! D'où sors-tu ? Et que viens-tu faire ici de si grand matin ?» Mon parrain Bigre avait vraiment de l'amitié pour moi, aussi lui répondis-je avec franchise. « Il ne s'agit pas de savoir d'où je sors, mais comment je rentrerai chez nous. » « Ah, filleul, tu deviens libertin. J'ai bien peur que Bigre et toi, vous ne fassiez la paire. Tu as passé la nuit dehors. » Et mon père n'entend pas raison sur ce point. « Ton père a raison, filleul, de ne pas entendre raison là-dessus. Mais commençons par déjeuner. La bouteille nous avisera. » Jacques, cet homme était dans les bons principes. Je lui répondis que je n'avais ni besoin ni envie de boire ou de manger et que je tombais de lassitude et de sommeil. Le vieux Bigre, qui de son temps n'en cédait pas à son camarade, ajouta en ricanant « Filleule, elle était jolie, et tu t'en es donné. Écoute, Bigre est sorti. Monte à la soupente et jette-toi sur son lit. Mais un mot avant qu'il revienne. C'est ton ami. Lorsque vous vous trouverez tête à tête, dis-lui que je suis mécontent, très mécontent. C'est une petite Justine que tu dois connaître, car quel est le garçon du village qui ne la connaisse pas, qui me l'a débauchée. Tu me rendrais un vrai service si tu le détachais de cette créature. Auparavant, c'était ce qu'on appelle un joli garçon, mais depuis qu'il a fait cette malheureuse connaissance... Tu ne m'écoutes pas, tes yeux se ferment. Monte et va te reposer. » Je monte, je me déshabille, je lève la couverture et les draps, je tâte partout, point de Justine. Cependant, Bigre mon parrain disait « Les enfants, les maudits enfants, n'en voilà-t-il pas encore un qui désole son père ?» Justine n'étant pas dans le lit, je me doutais qu'elle était en dessous. Le bouge était tout à fait aveugle. Je me baisse, je promène mes mains, je rencontre un de ses bras, je la saisis, je la tire à moi, elle sort de dessous la couchette en tremblant. Je l'embrasse, je la rassure, je lui fais signe de se coucher. Elle joint ses deux mains, elle se jette à mes pieds, elle serre mes genoux. Je n'aurais peut-être pas résisté à cette scène muette si le jour l'eût éclairée. Mais lorsque les ténèbres ne rendent pas timides, elles rendent entreprenants. D'ailleurs, j'avais ses anciens mépris sur le cœur. Pour toute réponse, je la poussai vers l'escalier qui conduisait à la boutique. Elle en poussa un cri de frayeur. Bigre, qui l'entendit, dit « Il rêve. » Justine s'évanouit, ses genoux se dérobent sous elle. Dans son délire, elle disait d'une voix étouffée « Il va venir, il vient. Je l'entends qui monte, je suis perdue. » « Non, non, lui répondis-je d'une voix étouffée, « Remettez-vous. Taisez-vous et couchez-vous. » Elle persiste dans son refus. Je tiens ferme, elle se résigne. Et nous voilà l'un à côté de l'autre. Traître, scélérat, sais-tu quel crime tu vas commettre? Tu vas violer cette fille, sinon par la force, du moins par la terreur. Poursuivi au tribunal des lois, tu n'en éprouverais toute la rigueur réservée aux ravisseurs. Je ne sais si je la violais, mais je sais bien que je ne lui fis pas de mal et qu'elle ne m'en fit point. D'abord, en détournant sa bouche de mes baisers, elle l'approcha de mon oreille et me dit tout bas « Non, non, Jacques, non !» À ce mot, je fais semblant de sortir du lit et de m'avancer vers l'escalier. Elle me retint et me dit encore à l'oreille « Je ne vous aurais jamais cru si méchant. Je vois qu'il ne faut pas attendre de vous aucune pitié, mais du moins, promettez-moi, jurez-moi. Quoi ? Que Bigre n'en saura rien.
Tu promis, tu juras, et tout alla fort bien.
Et puis très bien encore.
Et puis encore très bien, c'est précisément comme si vous y aviez été. »
Cependant, Bigre, mon ami, impatient, soucieux et las de rôder autour de la maison sans me rencontrer, rentre chez son père qui lui dit avec humeur « Tu as été bien longtemps pour rien !» Bigre lui répondit avec plus d'humeur encore « Est-ce qu'il n'a pas fallu allégir par les deux bouts ce diable d'essieu qui s'est trouvé trop gros ? Je t'en avais averti, mais tu n'en veux jamais faire qu'à ta tête. C'est qu'il est plus aisé d'en ôter que d'en remettre. Prends cette jante et va finir à la porte.
Pourquoi à la porte ?
C'est que le bruit de l'outil réveillerait Jacques, ton ami.
Jacques ?
Oui, Jacques, il est là-haut sur la soupente qui repose. Ah, que ses pères sont à plaindre, si ce n'est d'une chose, c'est d'une autre.
Eh bien, te remueras-tu ?
Tandis que tu restes là comme un imbécile, la tête baissée, la bouche béante et les bras pendants, la besogne ne se fait pas.
Bigre, mon ami, furieux, s'élance vers l'escalier. Bigre, mon parrain, le retient en lui disant « Où vas-tu ? Laisse dormir ce pauvre diable qui est excédé de fatigue. À sa place, serais-tu bien aise qu'on troublât ton repos ?»
Et Justine entendait encore tout cela ?
Comme vous m'entendez.
Et que faisais-tu ?
Je riais.
Et Justine ? Elle avait arraché sa cornette, elle se tirait par les cheveux, elle levait les yeux au ciel, du moins je le présume, elle se tordait les bras.
« Jacques, vous êtes un barbare, vous avez un cœur de bronze. »«
Non, monsieur, non, j'ai de la sensibilité, mais je la réserve pour une meilleure occasion. »
Les dissipateurs de cette richesse en ont tant prodigué lorsqu'il en fallait être économe, qu'il ne s'en trouve plus quand il faudrait en être prodigue.
Cependant, je m'habille et je descends. Bigre le père me dit « Tu avais besoin de cela. Cela t'a bien fait. Quand tu es venu, tu avais l'air d'un déterré, et te revoilà, vermeil et frais comme l'enfant qui vient de téter. Le sommeil est une bonne chose.
Bigre, descends à la cave et apporte une bouteille afin que nous déjeunions.
À présent, filleule, tu déjeuneras volontiers. »
Très volontiers.
La bouteille est arrivée et placée sur l'établi, nous sommes debout autour.
Bigre le père remplit son verre et le mien.
Bigre le fils, en écartant le sien, dit d'un ton farouche « Pour moi, je ne suis pas altéré si matin. »
« Tu ne veux pas boire ?»«
Non. » « Ah, je sais ce que c'est. Tiens, filleule, il y a de la Justine là-dedans. Il aura passé chez elle, ou il ne l'aura pas trouvée. » Ou il l'aura surprise avec un autre. Cette bouderie contre la bouteille n'est pas naturelle, c'est ce que je te dis.
Mais vous pourriez bien avoir deviné juste.
Jacques, trêve de plaisanterie. Placé ou déplacé, je ne les aime pas.
Puisqu'il ne veut pas boire, il ne faut pas que cela nous en empêche.
À ta santé, filleule.
À la vôtre, parrain.
Bigre, mon ami, bois avec nous. Tu te chagrines trop pour peu de choses.
Je vous ai déjà dit que je ne buvais pas.
Eh bien, si ton père l'a rencontré, que diable, tu la reverras. Vous vous expliquerez et tu conviendras que tu as eu tort.
Laissez-le faire. N'est-il pas juste que cette créature le châtie de la peine qu'il me cause ?
Ça, encore un coup. Et venons à ton affaire. Je conçois qu'il faut que je te mène chez ton père, mais que veux-tu que je lui dise ?
Tout ce que vous voudrez, tout ce que vous lui avez entendu dire 100 fois lorsqu'il vous a ramené votre fils.
Allons.
Il sort, je le suis, nous arrivons à la porte de la maison.
Je le laisse entrer seul, Curieux de la conversation de Bigre le père et du mien, je me cache dans un recoin derrière une cloison d'où je ne perdis pas un mot.
« Allons, compère, il faut encore lui pardonner cette fois. »«
Lui pardonner ? Mais de quoi ?
Tu fais l'ignorant. »«
Je ne le fais point, je le suis. » »«
Tu es fâché, et tu as raison de l'être. » »«
Je ne suis point fâché. » »«
Tu l'es, te dis-je. »
Si tu veux que je le sois, je ne demande pas mieux, mais que je sache auparavant la sottise qu'il a faite.
D'accord. 3 fois, 4 fois, mais ce n'est pas coutume. On se trouve une bande de jeunes garçons et de jeunes filles. On boit, on rit, on danse. Les heures se passent vite et cependant la porte de la maison se ferme.
Bigre, en baissant la voix, ajouta « Ils ne nous entendent pas, mais de bonne foi. » Est-ce que nous avons été plus sages qu'eux à leur âge? Sais-tu qui sont les mauvais pères? Les mauvais pères sont ceux qui ont oublié les fautes de leur jeunesse. Dis-moi, est-ce que nous n'avons jamais découché?
Et toi, bigre, mon compère, dis-moi, est-ce que nous n'avons jamais pris d'attachement qui déplaisait à nos parents?
Aussi, je crie plus haut que je ne souffre. Fais de même.
Mais Jacques n'a point découché, du moins cette nuit, j'en suis sûr.
Eh bien, si ce n'est pas celle-ci, c'en est une autre.
Tant y a que tu n'en veux point à ton garçon?
Non.
Et quand je serai parti, tu ne le maltraiteras pas?
Aucunement.
Tu m'en donnes ta parole?
Je te la donne.
Ta parole d'honneur?
Ma parole d'honneur.
Tout est dit, et je m'en retourne.
Comme mon parrain Bigre était sur le seuil, mon père, lui frappant doucement sur l'épaule, lui disait
« Bigre, mon ami, il y a ici quelque anguille sous roche. Ton garçon et le mien sont de futés matois, et je crains bien qu'il ne nous en ait donné d'une à garder aujourd'hui.
Mais avec le temps, cela se découvrira.
Adieu, compère. »
Et quelle fut la fin de l'aventure entre Bigre et ton amie Justine?
Comme elle devait être.
Il se fâcha, elle se fâcha plus fort encore que lui, elle pleura, il s'attendrit, elle jura que j'étais le meilleur ami qu'il eût, je lui jurai qu'elle était la plus honnête fille du village. Il nous crut, nous demanda pardon, nous en aima et nous en estima davantage tous deux, et voilà le commencement, le milieu et la fin de la perte de mon pucelage.
À présent, monsieur, je voudrais bien que vous m'apprissiez le but moral de cette impertinente histoire.
À mieux connaître les femmes.
Mais vous aviez besoin de cette leçon?
À mieux connaître les amis.
Et vous avez jamais cru qu'il y eût un seul qui tînt rigueur à votre femme ou à votre fille si elle s'était proposée sa défaite?
À mieux connaître les pères et les enfants.
« Allez, monsieur, ils ont été de tout temps et seront à jamais alternativement dupes les uns des autres. »«
Ce que tu dis là sont autant de vérités éternelles, mais sur lesquelles on ne saurait trop insister. »«
Quel que soit le récit que tu m'as promis après celui-ci, sois sûr qu'il ne sera vide d'instruction que pour un sot. »«
Mais continue. » »«
Lecteur, il me vient d'un scrupule. » C'est d'avoir fait honneur à Jacques ou à son maître de quelques réflexions qui vous appartiennent de droit. Si cela est, vous pouvez les reprendre sans qu'ils s'en formalisent. J'ai cru m'apercevoir que le mot « bigre » vous déplaisait. Je voudrais bien savoir pourquoi. C'est le vrai nom de famille de mon charron. Les extraits baptistères, extraits, mortuaires, contrats de mariage en sont signés bigre. Les descendants de bigre qui occupent aujourd'hui la boutique s'appellent bigre. Quand leurs enfants, qui sont jolis, passent dans la rue, on dit « Voilà les petits bigres !» Quand vous prononcez le nom de Boule, vous vous rappelez le plus grand ébéniste que vous ayez eu? On ne prononce point encore dans la contrée de Bigre le nom de Bigre sans se rappeler le plus grand charron dont on ait mémoire. Le Bigre dont on lit le nom à la fin de tous les livres d'office pieux du commencement de ce siècle fut un de ses parents. Si jamais un arrière-neveu de Bigre se signale par quelque grande action, le nom personnel de Bigre ne sera pas moins imposant pour vous que celui de César ou de Condé. C'est qu'il y a Bigre et Bigre, comme Guillaume et Guillaume. Si je dis Guillaume tout court,
ce ne sera ni le conquérant de la Grande-Bretagne, ni le marchand de draps de l'avocat Patelin. Le nom de Guillaume tout court ne sera ni héroïque, ni bourgeois. Ainsi de Bigre. Bigre tout court n'est ni le fameux Charron, ni quelqu'un de ses plats ancêtres ou de ses plats descendants. En bonne foi, un nom personnel peut-il être de bon ou de mauvais goût? Les rues sont pleines de matins qui s'appellent Pompée. Défaites-vous donc de votre fausse délicatesse, ou j'en userai avec vous comme Milord Chatham avec les membres du Parlement. Il leur dit « Sucre ? Sucre ? Sucre ! Qu'est-ce qu'il y a de ridicule là-dedans ?» Et moi, je vous dirai « Bigre ? Bigre ? Bigre ! Pourquoi ne s'appellerait-on pas Bigre ?» C'est comme le disait un officier à son général le Grand Condé, qu'il y a un fier bigre comme Bigre le Charron, un bon bigre comme vous et moi, de plats bigres comme une infinité d'autres. C'était un jour de noces. Frère Jean avait marié la fille d'un de ses voisins, j'étais garçon de fête. On m'avait placé à table entre les deux goguenards de la paroisse, j'avais l'air d'un grand nigaud, quoique je ne le fusse pas tant qu'ils le croyaient. Ils me firent quelques questions sur la nuit de la mariée. J'y répondis assez bêtement, et les voilà qui éclatent de rire, et les femmes de ces deux plaisants à crier de l'autre bout. « Qu'est-ce qu'il y a donc? Vous êtes bien joyeux là-bas » « C'est que c'est pas trop drôle !» répondit un de nos maris à sa femme. « Je te conterai cela ce soir !» L'autre, qui n'était pas moins curieuse, fit la même question à son mari qui lui fit la même réponse. Le repas continue, et les questions, et mes balourdises, et les éclats de rire, et la surprise des femmes. Après le repas, la danse. Après la danse, le coucher des époux, le don de la jarretière, moi dans mon lit, et mes goguenards dans les leurs, racontant à leurs femmes la chose incompréhensible, incroyable, c'est qu'à 22 ans, grand et vigoureux comme je l'étais, assez bien de figure, alerte et poinceau, j'étais aussi neuf, mais aussi neuf qu'au sortir du ventre de ma mère, et les deux femmes de s'en émerveiller ainsi que leur mari. Mais dès le lendemain, Suzanne me fit signe et me dit « Jacques, n'as-tu rien à faire ?»« Non, voisine, qu'est-ce qu'il y a pour votre service ?»« Je voudrais... » Et en disant « je voudrais », elle me serrait la main et me regardait si singulièrement. « Je voudrais que tu prisses notre serpe et que tu vinsses dans la commune m'aider à couper 2 ou 3 bourrées, car c'est une besogne trop forte pour moi toute seule. »« Très volontiers, madame Suzanne. Je prends la serpe et nous allons. » Chemin faisant, Suzanne se laissait tomber la tête sur mon épaule, me prenait le menton, me tirait les oreilles, me pinçait les côtés. Nous arrivons. L'endroit était en pente. Suzanne se couche à terre tout de son long, à la place la plus élevée, les pieds éloignés l'un de l'autre et les bras passés par-dessus la tête. J'étais au-dessous d'elle, jouant de la serpe sur le taillis, et Suzanne repliait ses jambes, approchant ses talons de ses fesses. Ses genoux élevés rendaient ses jupons fort courts, et je jouais toujours de la serpe sur le taillis, ne regardant guère où je frappais et frappant souvent à côté. Enfin, Suzanne me dit « Jacques, est-ce que tu ne finiras pas bientôt ?»« Quand vous voudrez, madame Suzanne. »« Est-ce que tu ne vois pas, dit-elle à mi-voix, que je veux que tu finisses ?»« Je finis donc, je repris haleine, et je finis encore. »« Et Suzanne, t'ôtais ton pucelage que tu n'avais pas ?»« Il est vrai, mais Suzanne ne s'y méprit pas, mais de sourire et de me dire « Tu en as donné d'une bonne à garder à notre homme, et tu es un fripon. » Que voulez-vous dire, madame Suzanne? Rien, rien, tu m'entends de reste. Trompe-moi encore quelquefois de même, et je te le pardonne. Je reliai ses bourrées, je les pris sur mon dos, et nous revînmes, elle à sa maison, moi à la nôtre. Sans faire une pause en chemin? Non. Il n'y avait donc pas loin de la commune au village. Pas plus loin que du village à la commune. Elle ne valait que cela? Elle valait peut-être davantage pour un autre jour. chaque moment a son prix. » À quelque temps de là, Dame Marguerite, c'était la femme de notre autre goguenard, avait du grain à faire moudre et n'avait pas le temps d'aller au moulin. Elle vint demander à mon père un de ces garçons qui y alla pour elle. Comme j'étais le plus grand, elle ne doutait pas que le choix de mon père ne tombât sur moi, ce qui ne manqua pas d'arriver. Dame Marguerite sort, je la suis, je charge le sac sur son âne et je le conduis seul au moulin. Voilà son grain moulu, et nous nous en revenions, l'âne et moi, assez tristes, car je pensais que j'en serais pour ma corvée. Je me trompais. Il y avait entre le village et le moulin un petit bois à passer. Ce fut là que je trouvai Dame Marguerite assise au bord de la voie. Le jour commençait à tomber. « Jacques, me dit-elle, enfin te voilà. Sais-tu qu'il y a plus d'une mortelle heure que je t'attends ?» Lecteur, vous êtes aussi trop pointilleux. D'accord, la mortelle heure est des dames de la ville et la grandeur de Dame Marguerite. C'est que l'eau était basse, que le moulin allait lentement, que le meunier était ivre et que, quelque diligence que j'ai faite, je n'ai pu revenir plus tôt. Assieds-toi là et jasons un peu. Dame Marguerite, je le veux bien. Me voilà assis à côté d'elle pour jaser, et cependant nous gardions le silence tous deux. Je lui dis donc, mais Dame Marguerite, vous ne dites mot et nous ne jasons pas. C'est que je rêve à ce que mon mari m'a dit de toi. Ne croyez rien de ce que votre mari vous a dit, c'est un gosseur. Il m'a assuré que tu n'avais jamais été amoureux. Ah, pour cela, il a dit vrai. Quoi ? Jamais de ta vie ? De ma vie. Comment ? À ton âge, tu ne saurais pas ce que c'est qu'une femme ? Pardonnez-moi, Dame Marguerite. Et qu'est-ce que c'est qu'une femme ?
Une femme ?
Oui, une femme.
Attendez. C'est un homme qui a du cotillon, une cornette et de gros tétons.
Ah, scélérat !
L'autre ne s'y était pas trompé, et je voulais que celle-ci s'y trompât. À ma réponse, Dame Marguerite fit des éclats de rire qui ne finissaient point, et moi, tout ébahie, je lui demandais ce qu'elle avait tant à rire. Dame Marguerite me dit qu'elle riait de ma simplicité.
Comment, grand comme tu es, tu n'en saurais pas davantage ?
Non, Dame Marguerite.
Là-dessus, Dame Marguerite se tut, et moi aussi. Mais, Dame Marguerite, lui dis-je encore, nous nous sommes assis pour jaser, et voilà que vous ne dites mot et que nous ne jasons pas. Dame Marguerite, qu'avez-vous ? Vous rêvez ?
Oui, je rêve. Je rêve. Je rêve. En prononçant ces « je rêve », sa poitrine s'élevait, sa voix s'affaiblissait. Ses membres tremblaient, ses yeux s'étaient fermés, sa bouche était entr'ouverte. Elle poussa un profond soupir. Elle défaillit, et je fis semblant de croire qu'elle était morte et me mis à crier du ton de l'effroi.
« Dame Marguerite ! Dame Marguerite ! Parlez-moi donc, Dame Marguerite ! Est-ce que vous vous trouvez mal ?»«
Non, mon enfant, laisse-moi un moment en repos. Je ne sais ce qui m'a prise, cela m'est venu subitement. »
Elle mentait.
Oh oui, elle mentait.
C'est que je rêvais.
Rêvez-vous comme cela, la nuit, à côté de votre mari ?
Quelquefois.
Cela doit l'effrayer.
Il y est fait.
Marguerite revint peu à peu de sa défaillance et dit : Je rêvais qu'à la noce, il y a 8 jours, notre homme et celui de la Suzanne se sont moqués de toi. Cela m'a fait pitié et je me suis trouvée toute je ne sais comment.
Vous êtes trop bonne.
Je n'aime pas qu'on se moque. Je rêvais qu'à la première occasion, il recommencerait de plus belle et que cela me fâcherait encore.
Mais il ne tiendrait qu'à vous que cela n'arrivât plus.
Et comment ?
En m'apprenant.
Et quoi ?
Ce que j'ignore.
Et ce qui faisait tant rire votre homme et celui de la Suzanne, qui ne rirait plus.
Oh non, non ! Je sais bien que tu es un bon garçon et que tu ne le diras à personne, mais je n'oserais.
Et pourquoi ?
C'est que je n'oserais. Oh, Dame Marguerite, apprenez-moi, je vous prie. Je vous en aurai la plus grande obligation. Apprenez-moi.
En la suppliant ainsi, je lui serrai les mains et elle me les serrait aussi. Je lui baisai les yeux et elle me baisait la bouche. Cependant, il faisait tout à fait nuit. Je lui dis donc : Je vois bien, Dame Marguerite, que vous ne me voulez pas assez de bien pour m'apprendre. J'en suis tout à fait chagrin. Allez, levons-nous. Retournons-nous-en. »
Dame Marguerite se tut. Elle reprit une de mes mains. Je ne sais où elle la conduisit, mais le fait est que je m'écriai
« Il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Scélérat ! Double scélérat ! »
Le fait est qu'elle est fort déshabillée et que je l'étais beaucoup aussi. Le fait est que j'avais toujours la main où il n'y avait rien chez elle et qu'elle avait placé sa main où cela n'était pas tout à fait de même chez moi. Le fait est que je me trouvais sous elle et par conséquent elle sur moi. Le fait est que ne la soulageant d'aucune fatigue, il fallait bien qu'elle la prît tout entière. Le fait est qu'elle se livrait à mon instruction de si bon cœur qu'il vint un instant où je crus qu'elle en mourrait. Le fait est qu'aussi troublée qu'elle et ne sachant ce que je disais, je m'écriais
« Ah, Dame Suzanne, que vous me faites aise !»«
Tu veux dire Dame Marguerite ?»«
Non, 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 non !» Le fait est que je pris un nom pour un autre et qu'au lieu de dire Dame Marguerite, je dis Dame Suzon. Le fait est que j'avouai à Dame Marguerite que ce qu'elle croyait m'apprendre ce jour-là, Dame Suzon me l'avait appris un peu diversement à la vérité il y avait 3 ou 4 jours. Le fait est qu'elle me dit
« Quoi ? C'est Suzon et non pas moi ?»
Le fait est que je répondis « Ce n'est ni l'une ni l'autre. » Le fait est que, tout en se moquant d'elle-même, de Suzon, des deux maris, et qu'en me disant de petites injures, je me trouvais sur elle, et par conséquent elle sous moi, et qu'en m'avouant que cela lui avait fait bien du plaisir, mais pas autant que de l'autre manière, elle se retrouva sur moi, et par conséquent moi sous elle.
Le fait est qu'après quelque temps de repos et de silence, je ne me trouvais ni elle dessous, ni moi dessus, ni elle dessus, ni moi dessous, car nous étions l'un et l'autre sur le côté. Qu'elle avait la tête penchée en devant et les deux fesses collées contre mes deux cuisses. Le fait est que, si j'avais été moins savant, la bonne dame Marguerite m'aurait appris tout ce qu'on peut apprendre. Le fait est que nous eûmes bien de la peine à regagner le village. Le fait est que mon mal de gorge est fort augmenté et qu'il n'y a pas d'apparence que je puisse parler de 15 jours.
Et tu n'as pas revu ces femmes ?
Pardonnez-moi, plus d'une fois.
Toutes deux ?
Toutes deux.
Elles ne se sont pas brouillées ?
Utiles l'une à l'autre, elles s'en sont aimées davantage. Les nôtres en auraient bien fait autant, mais chacune avec son chacun.
Tu ris ?
Toutes les fois que je me rappelle le petit homme criant, jurant, écumant, se débattant de la tête, des pieds, des mains, de tout le corps, et prêt à se jeter du haut du fenil en bas, au hasard de se tuer, je ne saurais m'empêcher de rire.
Et ce petit homme, qui est-il ? Le mari de la dame Suzon ?
Non.
Le mari de la dame Marguerite ?
Non.
Toujours le même. Il en a pour autant qu'il vivra.
Qui est-il donc ?
Jacques ne répondit point à cette question, et le maître ajouta « Dis-moi seulement qui était le petit homme !» Un jour, un enfant assis au pied du comptoir d'une lingère criait de toute sa force. La marchande, importunée de ses cris, lui dit « Mon ami, pourquoi criez-vous ?
C'est qu'ils veulent me faire dire « Ah !»
Et pourquoi ne voulez-vous pas dire « Ah » ?
C'est que je n'aurais pas si tôt dit « Ah » qu'ils voudront me faire dire « B ».
C'est que je ne vous aurais pas si tôt dit le nom du petit homme qu'il faudra que je vous dise le reste.
Peut-être.
Cela est sûr.
Allons, mon ami Jacques, nomme-moi le petit homme. Tu t'en meurs d'envie, n'est-ce pas ? Satisfais-toi.
C'était une espèce de nain, bossu, crochu, bègue, borgne, jaloux, paillard, amoureux, et peut-être aimé de Suzon. C'était le vicaire du village.
Jacques ressemblait à l'enfant de la lingère comme 2 gouttes d'eau, avec cette différence que, depuis son mal de gorge, on avait de la peine à lui faire dire « Ah !» Mais une fois en train, il allait de lui-même jusqu'à la fin de l'alphabet.
J'étais dans la grange de Suzon, seule avec elle.
Et tu n'y étais pas pour rien.
Non. Lorsque le vicaire arrive, il prend de l'humeur, il gronde, il demande impérieusement à Suzon ce qu'elle faisait en tête-à-tête avec le plus débauché des garçons du village, dans l'endroit le plus reculé de la chaumière. Tu avais déjà de la réputation, à ce que je vois.
Et assez bien méritée. Il était vraiment fâché.
À ce propos, il en ajouta encore d'autres moins obligeants.
Je me fâche de mon côté. D'injure en injure, nous en venons aux mains. Je saisis une fourche, je la lui passe entre les jambes, fourchon d'ici, fourchon de là, et le lance sur le fenil, ni plus ni moins comme une botte de paille.
Et ce fenil était haut ?
De 10 pieds au moins. Et le petit homme n'en serait pas descendu sans se rompre le cou.
Après ?
Après, j'écarte le fichu de Suzon, je lui prends la gorge, je la caresse, elle se défend comme cela. Il y avait là un bas d'âne dont la commodité nous était connue. Je la pousse sur ce bas.
Tu relèves ses jupons ?
Je relève ses jupons.
Et le vicaire voyait cela ?
Comme je vous vois.
Et il se taisait ?
Non, pas s'il vous plaît. Ne se contentant plus de rage, il se mit à crier « Au meurtre ! Main ! Meurtre ! Au feu ! Feu ! Feu ! Au voleurs ! Et voilà le mari que nous croyons loin qui accourt.
J'en suis fâchée, je n'aime pas les prêtres.
Et vous auriez été enchantée que sous les yeux de celui-ci,
j'en conviens. Suzon avait eu le temps de se relever, je me rajuste, me sauve, et c'est Suzon qui m'a raconté ce qui suit.
Le mari qui voit le vicaire perché sur le fenil se met à rire. Le vicaire lui disait « Ris, ris, ris bien, sot que tu es !» Le mari de lui obéir, de rire de plus belle et de lui demander qui est-ce qui l'a niché là. Le vicaire « Mais toi, te taire !» Le mari de rire encore et de lui demander comment il faut qu'il s'y prenne. Le vicaire « Comme j'y suis monté avec la fourche !»
Par sanguienne, vous avez raison. Voyez ce que c'est que d'avoir étudié.
Le mari prend la fourche, la présente au vicaire, celui-ci s'enfourche comme je l'avais enfourché, le mari lui fait faire un ou deux tours de grange au bout de l'instrument de basse-cour, accompagnant cette promenade d'une espèce de chant en faux bourdon, et le vicaire criait « Descends-moi, maraud, me descendras-tu » Et le mari lui disait « À quoi tient-il, monsieur le vicaire, que je ne vous montre ainsi dans toutes les rues du village ? On n'y aurait jamais vu une aussi belle procession. »
Cependant, le vicaire en fut quitte pour la peur, et le mari le mit à terre.
Je ne sais ce qu'il dit alors au mari, car Suzon s'était évadée. Mais j'entendis
« Malheureux, tu frappes un prêtre, je t'excommunie, tu seras damné !»
C'était le petit homme qui parlait, et c'était le mari qui le pourchassait à coups de fourche. J'arrive avec beaucoup d'autres, d'aussi loin que le mari m'aperçut, mettant sa fourche en arrêt.
« Approche ! Approche !» me dit-il.
« Et Suzon ?»
Elle s'en tira.
« Mal ?»«
Non, les femmes s'en tirent toujours bien quand on ne les a pas surprises en flagrant délit.
« De quoi riez-vous ?»
De ce qui me fera rire comme toi, toutes les fois que je me rappellerai le petit prêtre au bout de la fourche du mari.
Ce fut peu de temps après cette aventure qui vint aux oreilles de mon père et qui en rit aussi, que je m'engageais comme je vous ai dit.
Après quelques moments de silence ou de tout de la part de Jacques, disent les uns, ou après avoir encore ri, disent les autres, le maître s'adressant à Jacques lui dit «
Et l'histoire de tes amours ? »
Jacques hocha de la tête et ne répondit pas.
Comment un homme de sens, qui a des mœurs, qui se pique de philosophie, peut-il s'amuser à débiter des contes de cette obscénité ?
Premièrement, lecteur, ce ne sont pas des contes, c'est une histoire, et je ne me sens pas plus coupable, et peut-être moins, quand j'écris les sottises de Jacques, que Suétone quand il nous transmet les débauches de Tibère. Cependant, vous lisez Suétone, et vous ne lui faites aucun reproche. Pourquoi ne froncez-vous pas le sourcil à Catulle, à Martial, à Horace, à Juvénal, à Pétrone, à La Fontaine et à tant d'autres ? Pourquoi ne dites-vous pas au stoïcien Sénèque « Quel besoin avons-nous de la crapule de votre esclave au miroir concave ? Pourquoi n'avez-vous de l'indulgence que pour les morts ?»
Si vous réfléchissiez un peu à cette partialité, vous verriez qu'elle naît de quelques principes vicieux. Si vous êtes innocent,
Vous ne me lirez pas.
Si vous êtes corrompu,
vous me lirez sans conséquence. Et puis, si ce que je vous dis là ne vous satisfait pas, ouvrez la préface de Jean-Baptiste Rousseau et vous y trouverez mon apologie.
Quel est celui d'entre vous qui osa blâmer Voltaire d'avoir composé la Pucelle ?
Aucun. Vous avez donc deux balances pour les actions des hommes. Mais, dites-vous, la Pucelle de Voltaire est un chef-d'œuvre ?
Tant pis, puisqu'on ne l'en dira que davantage.
Et votre Jacques n'est qu'une insipide rhapsodie de faits, les uns réels, les autres imaginés, écrits sans grâce et distribués sans ordre.
Tant mieux, mon Jacques en sera moins lu.
De quelque côté que vous vous tourniez, vous avez tort. Si mon ouvrage est bon, il vous fera plaisir. S'il est mauvais, il ne fera point de mal.
Point de livre plus innocent qu'un mauvais livre. Je m'amuse à écrire sous des noms empruntés les sottises que vous faites. Vos sottises me font rire. Mon écrit vous donne de l'humeur.
Lecteur, à vous parler franchement, je trouve que le plus méchant de nous deux, ce n'est pas moi.
Que je serais satisfait s'il m'était aussi facile de me garantir de vos noirceurs qu'à vous de l'ennui ou du danger de mon ouvrage.
Vilains hypocrites, laissez-moi en repos.
Foutez comme des ânes débattés, mais permettez-moi que je dise foutre. Je vous passe l'action. Passez-moi le mot.
Vous prononcez hardiment tuer, voler, trahir, et l'autre vous ne l'oseriez qu'entre les dents ?
Est-ce que moins vous exhalez de ces prétendues impuretés en parole, plus il vous en reste dans la pensée ?
Et que vous a fait l'action génitale si naturelle, si nécessaire et si juste pour en exclure le signe de vos entretiens et pour imaginer que votre bouche, vos yeux et vos oreilles en seraient souillés ?
Il est bon que les expressions les moins usitées, les moins écrites, les moins tues soient les mieux sues et les plus généralement connues.
Aussi cela est.
Aussi le mot « futuo » n'est-il pas moins familier que le mot « pain » ?
Nul âge ne l'ignore, nul idiome n'en est privé.
Il a 1000 synonymes dans toutes les langues. Il s'imprime en chacune sans être exprimé, sans voix, sans figure. Et le sexe qui le fait le plus a usage de le taire le plus.
Je vous entends encore. Vous vous écriez « fi le cynique !»« fi l'impudent !»« fi le sophiste !»
Courage ! Insultez bien un auteur estimable que vous avez sans cesse entre les mains et dont je ne suis ici que le traducteur.
La licence de son style m'est presque un garant de la pureté de ses mœurs. C'est Montaigne. Lasciva est nobis pagina, vita proba.
Jacques et son maître passèrent le reste de la journée sans desserrer les dents.
Jacques toussait et son maître disait « Voilà une cruelle toux !» regardait à sa montre l'heure qu'il était sans le savoir, ouvrait sa tabatière sans s'en douter, et prenait sa prise de tabac sans le sentir.
Ce qui me le prouve, c'est qu'il faisait ces choses 3 ou 4 fois de suite et dans le même ordre. Un moment après, Jacques toussait encore et son maître disait
« Quel diable de toux ! Aussi, tu t'en es donné du vin de l'hôtesse jusqu'au nœud de la gorge ! Hier au soir, avec le secrétaire, tu ne t'es pas ménagé davantage. »
Quand tu remontas, tu chancelais, tu ne savais pas ce que tu disais, et aujourd'hui tu as fait 10 haltes, et je gage qu'il ne reste pas une goutte de vin dans ta gourde. »
Puis il grommelait entre ses dents, regardait à sa montre, et régalait ses narines.
J'ai oublié de vous dire, lecteur, que Jacques n'allait jamais sans une gourde remplie du meilleur. Elle était suspendue à l'arçon de sa selle. À chaque fois que son maître interrompait son récit par quelques questions un peu longues, il détachait sa gourde, en buvait un coup à la régalade, et ne la remettait à sa place que quand son maître avait cessé de parler. J'avais encore oublié de vous dire que, dans les cas qui demandaient de la réflexion, son premier mouvement était d'interroger sa gourde. Fallait-il résoudre une question de morale, discuter un fait, préférer un chemin à un autre, entamer, suivre ou abandonner une affaire, peser les avantages ou les désavantages d'une opération de politique, d'une spéculation de commerce ou de finance, la sagesse ou la folie d'une loi, le sort d'une guerre, le choix d'une auberge, dans une auberge, le choix d'un appartement, dans un appartement, le choix d'un lit. Son premier mot était « Interrogeons la gourde !»
Son dernier était « C'est la vie de la gourde et le mien ». Lorsque le destin était muet dans sa tête, il s'expliquait par sa gourde. C'était une espèce de pitié portative, silencieuse, aussitôt qu'elle était vide. Adelphe, la pitié, ses cotillons retroussés, assise à cul-nu sur le trépied, recevait son inspiration de bas en haut. Jacques sur son cheval, la tête tournée vers le ciel, sa gourde débouchée et le goulot incliné vers sa bouche, recevait son inspiration de haut en bas. Lorsque la pitié et Jacques prononçaient leurs oracles, ils étaient ivres tous les deux. Ils prétendaient que l'Esprit Saint était descendu sur les apôtres dans une gourde. Il appelait la Pentecôte la fête des gourdes. Il a laissé un petit traité de toutes sortes de divinations, traité profond dans lequel il donne la préférence à la divination de Bacbuc ou par la gourde. Il s'inscrit en faux malgré toute la vénération qu'il lui portait contre le curé de Meudon qui interrogeait la dive Barbuc par le choc de la panse. « J'aime Rabelais, dit-il, mais j'aime mieux la vérité que Rabelais. » Il l'appelle hérétique en gastrimite. Et il prouve par 100 raisons meilleures les unes que les autres que les vrais oracles de Bacbuc ou de la gourde ne se faisaient entendre que par le goulot. Il compte au rang des sectateurs distingués de Bacbuc, des vrais inspirés de la gourde dans ces derniers siècles, Rabelais, Lafare, La Chapelle, Chaulieu, La Fontaine, Molière, Panard, Galévadé, Platon et Jean-Jacques Rousseau qui prônèrent le bon vin sans en boire sont à son avis de faux frères de la gourde. La gourde eut autrefois quelques sanctuaires célèbres, la pomme de pin, le temple de la guinguette, sanctuaire dont il écrit l'histoire séparément. Il fait la peinture la plus magnifique de l'enthousiasme, de la chaleur, du feu dont les bacbuciens ou périgourdins étaient et furent encore saisis de nos jours, lorsque sur la fin du repas, les coudes appuyés sur la table, la dive Bacbuc ou la gourde sacrée leur apparaissait, était déposée au milieu d'eux, sifflait, jetait sa coiffe loin d'elle et couvrait ses adorateurs de son écume prophétique. Son manuscrit est décoré de deux portraits, au bas desquels on lit « Anacréon et Rabelais, l'un parmi tes anciens, l'autre parmi les modernes, souverain pontife de la gourde. » Et Jacques s'en est servi du thème en gastrimite ? Pourquoi pas, lecteur ? Le capitaine de Jacques était bacbucien. Il a pu connaître cette expression, et Jacques, qui recueillait tout ce qu'il disait, se la rappelait. Mais la vérité, c'est que l'engastrimite est de moi, et qu'on lit sur le texte original « ventriloque ». Tout cela est fort beau, ajoutez-vous, mais les amours de Jacques. Les amours de Jacques, il n'y a que Jacques qui les sache, et le voilà tourmenté d'un mal de gorge qui réduit son maître à sa montre et à sa tabatière, indigence qui l'afflige autant que vous. Qu'allons-nous donc devenir ? Ma foi, je n'en sais rien. Ce serait bien ici le cas d'interroger la dive Bacbuc ou la gourde sacrée. Mais son culte tombe, ses temples sont déserts. Ainsi qu'à la naissance de notre divin sauveur, les oracles du paganisme cessèrent, à la mort de Galée, les oracles de Bacbuc furent muets, aussi plus de grands poèmes, plus de ses morceaux une éloquence sublime, plus de ses productions marquées au coin de l'ivresse et du génie. Tout est raisonné, compassé, académique et plat. Ô dive Bacbuc, ô gourde sacrée, ô divinité de Jacques, revenez au milieu de nous. Il me prend envie, lecteur, de vous entretenir de la naissance de la dive Bacbuc, des prodiges qui l'accompagnèrent et qui la suivirent, des merveilles de son règne et des désastres de sa retraite. Et si le mal de gorge de notre ami Jacques dure et que son maître s'opiniâtre à garder le silence, il faudra bien que vous vous contentiez de cet épisode que je tâcherai de pousser jusqu'à ce que Jacques guérisse et reprenne l'histoire de ses amours. Il y a ici une lacune vraiment déplorable dans la conversation de Jacques et de son maître. Quelques jours, un descendant de Nodot, du président de Brosse, de Franchemius ou du père Brottier la remplira peut-être. et les descendants de Jacques ou de son maître, propriétaire du manuscrit, en riront beaucoup. Il paraît que Jacques, réduit au silence par son mal de gorge, suspendit l'histoire de ses amours et que son maître commença l'histoire des siennes. Ce n'est ici qu'une conjecture que je donne pour ce qu'elle vaut. Après quelques lignes ponctuées qui annoncent la lacune, on lit « Rien n'est plus triste dans ce monde que d'être un sot ». Est-ce Jacques qui profère cet apophtègme? Est-ce son maître? Ce serait le sujet d'une longue et épineuse dissertation. Si Jacques était assez insolent pour adresser ces mots à son maître, celui-ci était assez franc pour se les adresser à lui-même. Quoi qu'il en soit, il est évident, il est très évident, que c'est le maître qui continue. C'était la veille de sa fête et je n'avais point d'argent. Le chevalier de Saint-Ouen, mon ami intime, n'était jamais embarrassé de rien. « Tu n'as point d'argent ?» me dit-il. « Non. » « Eh bien, il n'y a qu'à en faire. » « Et tu sais comment on fait ?»« Sans doute. » Il s'habille, nous sortons, et il me conduit à travers plusieurs rues détournées dans une petite maison obscure où nous montons par un petit escalier sale à un troisième où j'entre dans un appartement assez spacieux et singulièrement meublé. Il y avait, entre autres choses, trois commodes de front, toutes trois de formes différentes. Par derrière celle du milieu, un grand miroir à chapiteau trop haut pour le plafond, en sorte qu'un bon demi-pied de ce miroir était caché par la commode. Sur ces commodes, des marchandises de toute espèce, de tric-trac. Autour de l'appartement, des chaises assez belles, mais pas une qui eût sa pareille. Au pinalis sans rideau, une superbe duchesse. Contre une des fenêtres, une volière sans oiseaux, mais toute neuve. À l'autre fenêtre, un lustre suspendu par un manche à balai, et le manche à balai portant des deux bouts sur les dossiers de deux mauvaises chaises de paille. Et puis de droite et de gauche, des tableaux, les uns attachés au mur, les autres en pile. Cela sent le faiseur d'affaires d'une lieue à la ronde. Tu l'as deviné. Et voilà le chevalier et Monsieur Lebrun, c'est le nom de notre brocanteur et courtier d'usure, qui se précipitent dans les bras l'un de l'autre. « Eh, c'est vous, monsieur le chevalier ?»« Eh oui, c'est moi, mon cher Lebrun. »« Mais que devenez-vous donc? Il y a une éternité qu'on ne vous a vu. Les temps sont bien tristes, n'est-il pas vrai ?»« Très triste, mon cher Lebrun. Mais il ne s'agit pas de cela. Écoutez-moi, j'aurais un mot à vous dire. » Je m'assieds. Le chevalier et Lebrun se retirent dans un coin et se parlent. Je ne puis te rendre de leur conversation que quelques mots que je surpris à la volée. « Il est bon ?»« Excellent. »« Majeur ?»« Très majeur. »« C'est le fils ?»« Le fils. »« Savez-vous que nos deux dernières affaires ?»« Parlez plus bas. »« Le père ?»« Riche. »« Vieux ?»« Et caduc. » Lebrun à haute voix. « Tenez, monsieur le chevalier, je ne veux plus me mêler de rien. Cela a toujours des suites fâcheuses. C'est votre ami à la bonne heure. Monsieur a tout à fait l'air d'un galant homme, mais... Mon cher Lebrun, je n'ai point d'argent. Mais vous avez des connaissances. Ce sont tous des gueux, de fiefs et fripons. Monsieur le chevalier, n'êtes-vous point là de passer par ces mains-là? Nécessité n'a point de loi. La nécessité qui vous presse est une plaisante nécessité, une bouillotte, une partie de la belle, quelques filles. Cher ami, c'est toujours moi, je suis faible comme un enfant. Et puis vous, je ne sais pas à qui vous ne feriez pas fausser un serment. Allons, sonnez donc afin que je sache si Fourgeot est chez lui. Non, ne sonnez pas. Fourgeot vous mènera chez Merval. Pourquoi pas vous? Moi, j'ai juré que cette abominable Mervaille ne travaillerait jamais ni pour moi ni pour mes amis. Il faudra que vous répondiez pour monsieur, qui peut-être, qui est sans doute un honnête homme, que je réponde pour vous à Fourgeot et que Fourgeot réponde pour moi à Merval. Cependant la servante était entrée en disant « C'est chez monsieur Fourgeot ?» Lebrun à sa servante « Non, ce n'est chez personne. » « Monsieur le chevalier, je ne saurais absolument, je ne saurais... » Le chevalier l'embrasse, le caresse. « Mon cher Lebrun, mon cher ami !» Je m'approche, je joins mes instances à celles du chevalier. « Monsieur Lebrun, mon cher monsieur !» Le brin se laisse persuader. La servante qui souriait de cette momerie part et dans un clin d'œil reparaît avec un petit bonhomme boiteux, vêtu de noir, canne à la main, bègue, le visage sec et ridé, l'œil vif. Le chevalier se tourne de son côté et lui dit « Allons, monsieur Mathieu de Fourgeot, nous n'avons plus un moment à perdre. Conduisez-nous vite !»